France Info.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Les Informés. Les Informés ce soir. Et la canicule, elle touche à sa fin, mais va-t-il falloir s'y habituer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que faut-il changer? Peut-on compter sur ceux d'en haut? Le G20 par exemple, les 20 plus grosses puissances économiques? Pas sûr, c'est le premier thème des informés. Avant de passer ensuite à la marche des fiertés, il y en avait une aujourd'hui à Paris, sous la canicule, et avec en ligne de mire le projet de loi bioéthique avec la PMA, la procréation médicalement assistée. Les informés ce soir jusqu'à 21h, avec autour de la table Marie-Josée Allier, journaliste, chanteuse, écrivaine, bonsoir.
Bonsoir.
Dominique de Montvallon, journaliste, éditorialiste, bonsoir.
Bonsoir.
Caroline Mécari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, spécialisée en droit de la famille, engagée pour la défense des droits des homosexuels, et vous venez d'ailleurs de sortir un livre qui est un que sais-je.
Oui, sur la PMA et la GPA.
La Absolument. PMA et la GPA, donc il vient de sortir, un que sais-je. Guillaume Jubin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes associé chez WeMean, c'est une agence de conseil en communication. Vous êtes également professeur à Sciences Po. Merci de nous écouter à la radio, de nous regarder à la télévision. C'est sur le canal 27. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est parti. Plus de canicule et plus sévère, c'est ce à quoi il faut s'attendre dans les prochaines années. Respirer en ville, réduire la place de la voiture, créer des pistes cyclables, obtenir la circulation différenciée automatique en cas de pollution, eh bien c'est ce qui se passe à Paris. La maire Anne Hidalgo a défendu son bilan, c'était sur BFM TV.
Je pense que ça, certains citoyens, et je l'ai vu, l'ont peut-être vécu comme une forme de brutalité parce que ce changement de comportement qui est indispensable, quand vous voyez la canicule à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, la nécessité de mettre en place des mesures d'urgence, par exemple sur la circulation, on voit bien qu'il fallait le faire. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces évolutions. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais beaucoup plus de reproches si nous ne les avions pas faites.
Alors on a connu une année difficile pour Anne Hidalgo avec ce qu'on appelait le Hidalgo bashing, de nombreuses critiques avec le Vélib qui ne fonctionnait pas, la fin d'Autolib. Dominique de Montvallon, est-ce que là Anne Hidalgo en gros elle dit ben voilà, tous ceux qui m'ont critiqué aujourd'hui, ils ne peuvent plus, j'avais raison, elle a tout bon, fermer le banc?
Ça me paraît extrêmement simpliste, mais de sa part, c'est tout à fait normal qu'elle dise ça, qu'elle argumente de cette façon-là. Attendez, les mutations qu'elle a commencé d'imprimer et de faire vivre à Paris l'ont été sous le sceau, je la cite, d'une certaine brutalité, ça c'est sur la forme, qui a pu heurter inutilement alors que l'objectif était souvent recevable. Ça c'est une chose.
Surtout aujourd'hui, on le voit.
Non, mais... Elle a dit, devant votre micro, elle a dit tout à l'heure, elle a évoqué elle-même la brutalité comme une forme d'autocritique. Bon, mais ça, c'est pour la forme. Mais sur le fond, évidemment qu'elle a contribué comme maire de Paris. Si elle était restée au statu quo, ça aurait été catastrophique. Évidemment qu'elle a contribué aux mutations qui devront d'ailleurs s'accélérer. Mais le problème n'est pas là. Enfin, donc sur ce point-là, donnons-lui acte. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait l'ensemble d'une société. Alors là, on parle de Paris et de la région parisienne. Si des gens utilisent leur voiture, s'ils n'ont pas des moyens de transport pour gagner Paris, c'est un problème que même, la maire de Paris, qui n'est quand même pas la maire uniquement des quartiers bobos, que je sache, doit prendre en compte. Voilà, je le dis de façon un peu polémique, mais c'est ça. Autrement dit, dont acte, elle est allée dans la bonne direction, elle a pris sur un mode un peu brutal des décisions utiles et dérangeantes, mais qui étaient utiles d'abord, c'est ça ce qu'il faut retenir. Mais,
et dont acte pour vous aujourd'hui, le message
bravo.
Non, dont acte, j'ai dit.
Dont acte. Oui. Hein, pardon, j'ai cru entendre ça. Non, je lui dis dont acte. Voilà, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et collectivement.
Marie-Josée Allier, vous m'entendez bien?
Je vous entends parfaitement, mais pas du tout. Moi, je trouve qu'Anne Hidalgo, c'est une femme très courageuse parce que finalement, la politique politicienne fait qu'on retarde toujours le moment où on va pouvoir faire les choses parce qu'il y a toujours une élection en vue, il y a toujours
Anne Hidalgo. Donc, c'est pas grave si c'est brutal.
C'est pas grave si c'est brutal, parce que ce qui nous arrive là est très, très brutal. Je veux dire, ça fait des décennies qu'on aurait dû se mobiliser, 30 ans qu'on aurait dû se mobiliser sur l'état du réchauffement de la planète. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas entendu avant. Moi, j'ai grandi dans la chaleur. J'allais en Martinique. Donc, j'allais à l'école en sueur, les classes en sueur. Donc, la résistance, simplement, nous, on a un fonctionnement, c'est-à-dire qu'on cherche l'ombre. On cherche l'ombre, on cherche la fraîcheur, on a un fonctionnement par rapport...
Alors que les Parisiens cherchent les terrasses et cherchent le soleil.
Non, c'est pas ça. C'est que je dis que si on avait anticipé un petit peu, déjà les constructions auraient été complètement différentes. Ça veut dire que, bon, c'est vrai qu'on a un métro de retard. Moi, on m'a appris que la France hexagonale, c'était un pays tempéré, en même temps qu'on m'a appris que les Antilles étaient gaulois, donc j'ai pris tout. Et donc,
Un autre débat.
Non, mais ce que je veux dire, sans plaisanter, c'est que effectivement, il y a... Je ne pense pas que le débat soit la capacité de résistance des êtres humains à la chaleur actuelle. D'ailleurs, j'ai l'impression que les journalistes sont beaucoup plus alarmistes dans leurs questions et dans leurs commentaires que les gens qui sont interviewés, qui disent « il fait chaud, on se débrouille, etc. » Non, c'est pas là le débat. Le débat, il est qu'on y est. On y est. Le réchauffement climatique,
donc,
c'est maintenant...
Donc, Anne Hidalgo, elle a bien fait. Pour donc, vous, là, Anne Hidalgo, quand vous l'entendez, vous dites
Anne Hidalgo, elle a parfaitement bien fait. Il faudra changer nos modes de comportement. Il fallait le faire depuis longtemps. On a pris du retard et il va falloir le rattraper
ce
retard.
Cette violence nous fait prendre conscience qu'il faut agir très rapidement, Caroline Mécari.
Bah écoutez, d'abord, la première violence, c'est déjà ce qu'on est en train de subir du point de vue du climat. C'est-à-dire que l'épisode de canicule que nous vivons est extrêmement violent, en fait, pour nos corps qui n'y sont pas du tout habitués. Et ce qui est très grave, en fait, c'est qu'on sait très bien aujourd'hui, scientifiquement, que ces épisodes-là sont amenés à se reproduire de plus en plus souvent. Pourquoi ? Parce que, en effet, il y a un dérèglement climatique. Et je rappelle, par ailleurs, sur la question de la pollution, qu'il y a 60 000 personnes qui meurent par an des effets de la pollution. Donc, il est évident qu'à un moment donné, quand on est en charge de... Enfin, quand on est au pouvoir, quand on est, par exemple, un maire comme la maire de Paris, eh bien, on doit prendre des décisions, mais elle n'est pas la seule à les avoir prises. Je rappelle que le ministre de l'Environnement, c'est lui qui a instauré la circulation différenciée en disant que les voitures qui n'étaient pas critère 1 et critère 2 ne pouvaient pas rouler. Mais évidemment, ça va bien au-delà des choix faits par Anne Hidalgo.
Et maintenant, ce sera automatique, en cas de pic de pollution.
Tout à fait, oui.
Un mot, Guillaume Jubin.
Oui.
Sur la méthode et l'intervention d'Anne Hidalgo, qui, je crois que ça fait longtemps qu'elle n'est pas passée sur un média national pour parler de politique nationale.
Je crois que le grand risque, en fait, c'est de faire du climat et du réchauffement climatique un enjeu politique. Certes, ça concerne la société,
ça l'est,
mais si on le place comme on le fait là, dans un débat qui va être
un
électoral,
un an des élections,
ça ferme la porte à une réalité, qui est une réalité, vous l'avez souligné, qui est une réalité scientifique, qui est une réalité qu'on mesure aujourd'hui dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. Mais si on en met un sujet, un politicien dans un débat politique, il sera forcément instrumentalisé et on aura en face des gens qui s'y opposeront pour des raisons qui seront pas les bonnes. Donc je pense que la méthode n'est pas bonne. C'est pas en le mettant comme un sujet politique qu'on fera progresser la prise de conscience sur le réchauffement climatique.
Restez au frais dans notre studio climatisé. On revient sur ce sujet dans un instant. 20h11, le rappel de l'info, Boris Allier.
Les pompiers restent mobilisés dans le Gard. Ils tentent de maîtriser deux nouveaux foyers d'incendie. En 24 heures, les flammes ont fait 20 blessés, brûlé 11 habitations et détruit plus de 600 hectares. Des incendies favorisés par les fortes chaleurs. L'Espagne, elle aussi, est concernée par cette canicule. Plusieurs centaines de pompiers combattent les flammes dans le centre et le nord-est. Le ministre allemand des Affaires étrangères réclame une clarification rapide après l'arrestation de la capitaine du Sea-Watch, ce navire d'une ONG allemande qui a accosté de force dans le port italien de Lampedusa. À son bord, 40 migrants secourus en mer. Le ministre italien de l'Intérieur refusait de les accueillir et il dénonce un acte de guerre. Des drapeaux arc-en-ciel, de la musique et des chars multicolores. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Paris aujourd'hui. C'est la traditionnelle marche des fiertés. Une 41e édition placée sous le signe de la défense de la PMA pour toutes les femmes. Et puis l'Allemagne et la Suède s'affrontent pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Avantage à la Suède à quelques minutes de la fin. Si elles l'emportent, elles rejoindront les Néerlandaises en demi-finale. Elles se sont imposées, elles, tout à l'heure, face à l'Italie.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'émission Les Informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Je vous présente les informés de ce soir. Marie-Josée Allier, Dominique de Montvalon, Caroline Mécari et Guillaume Jubin. Nous sommes toujours dans le thème du réchauffement climatique, de la canicule, les effets les plus visibles en ce moment. La canicule, le réchauffement, on peut agir au quotidien. Mais en haut, que font-ils les 20 puissances économiques, les 20 plus riches, on va dire? Eh bien, se sont réunis à Tokyo, c'est le G20, il vient de se terminer. Le bilan, eh bien, il nous est fait par le président de la République. On écoute Emmanuel Macron.
On a, si je puis dire, évité en effet de reculer. Nous avons consolidé quelques puissances sur lesquelles nous avions un doute. Et nous donnons la possibilité d'aller plus loin et nous mettrons notre énergie pour aller plus loin. Mais je ne peux que regretter la position américaine. Je ne peux pas faire beaucoup plus de choses que ça.
Voilà, donc en gros, le G20 est toujours sur les accords de Paris de 2015, mais les États-Unis ne sont toujours pas rentrés dans ces accords. Vous vous en souvenez, ils en sont sortis. Donc les États-Unis sont isolés. Caroline Mécaré, quand vous entendez le chef de l'État dire « on a évité de reculer », c'est pour dire qu'on n'avance pas, quoi.
Oui, en fait, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que ce qui est vraiment dramatique, en fait, c'est d'avoir l'attitude du président américain ou du président brésilien qui, en fait, n'en ont strictement rien à faire du changement climatique qui nous impacte tous, mais alors vraiment tous. Et là où...
Eux aussi
Non, en fait, c'est-à-dire que eux, la seule chose qui compte, c'est après moi le déluge. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est vraiment la course à la croissance, la course au profit. Peu importe si ça doit décimer des centaines de millions de gens, si ça doit déplacer des dizaines de millions de gens sur la Terre dans les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années. Ils s'en moquent. Vous imaginez bien que Donald Trump ne va pas empêcher ses amis pétroliers produire du gaz de schiste. Bolsonaro ne va pas empêcher les industries agroalimentaires de déforester l'Amazone, alors que nous allons tous être impactés. Et là, au fond, ce que dit le président Macron, c'est un constat d'impuissance. Et au fond, c'est terrible. C'est terrible parce que nous ne pouvons, en fait, on a vraiment le sentiment qu'on ne peut rien faire. Mais là où il y a un peu d'espoir, c'est quand même quand on voit les jeunes qui se lèvent pour le climat, parce que eux, ils ont bien compris qu'en fait, c'était une question de vie ou de mort.
Attention, les jeunes, ils vont voter un jour.
Bien sûr, absolument. Mais ils vont pas faire que voter. Ils sont déjà en train de défiler tous les vendredis pour le climat. Et ça va s'accentuer, ça.
Donc, Marie-Josée Allier, ce n'est pas le G20 qui va sauver
déjà,
la planète.
Le G20, quand on fait le poids, par exemple, des déplacements, on les voit, les 20, des déplacements et de ce que ça a coûté...
En termes de
ils vont pas aller au Japon à vélo.
On va pas à vélo, mais je veux dire, et quand on voit le résultat, on se dit il y a quand même quelque chose qui est assez déséquilibré. C'est vrai que l'accord de Paris était déjà mou. Il était déjà à minima, il correspondait pas du tout aux attentes qu'on pouvait espérer par rapport à l'urgence de la situation de la planète. Mais alors là, pour le coup, franchement, j'ai pensé à un moment que tout ce qui nous est arrivé là, toutes les catastrophes naturelles, allaient réveiller une espèce de conscience
des dirigeants. Il y a toujours les climato-sceptiques qui disent.
Il y a toujours les climato-sceptiques que ça arrange de dire.
Et on les entend pas pendant la canicule.
Je pense qu'il y a eu un réveil de conscience, mais que personne ne sait comment faire sans déshabiller son pays de ses petites prérogatives. De son mandat qui va pas tarder à se terminer, Alors, compter sur les dirigeants de cette planète, moi je dis que c'est une utopie totale. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est la population, c'est le réveil citoyen qui va tout faire. Parce que c'est vrai que les jeunes vont voter, mais qu'aussi ils vont se manifester et qu'il va falloir répondre à ce qu'ils demandent.
Dominique de Montvalon, les politiques ne peuvent rien faire ?
C'est le refrain habituel sur
tous les... En tout cas pour la planète, parce que ce que disait Caroline
Mécari, c'est...
C'est le refrain
habituel sur tous les grands sujets, donc il est normal qu'ils reviennent là.
Je vais vous dire une chose. Ils veulent de la croissance et donc de l'emploi, il n'y a que ça qui compte.
Je vais vous dire une chose. Premièrement, c'est le principe du verre à moitié vide et à moitié plein. Que n'aurait-on dit si les Brésiliens et d'autres d'ailleurs avaient quitté l'accord insuffisant, certes, l'accord de Paris, certes insuffisant, mais puissamment symbolique, il faut aller au-delà. Mais que n'aurait-on dit ? Donc effectivement, on est dans une situation où le président français, qui est de facto le leader d'une Europe divisée et dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile, il est fondé, à mon avis, il n'y a pas de quoi sortir les trompettes de la renommée pour ça, mais à dire, effectivement, on n'a pas reculé, et on va essayer d'avancer la fois prochaine. Je serais d'avis de ne pas faire preuve d'ironie vis-à-vis de cette situation-là, parce qu'elle engage nos vies à tous. Mmh. Et la deuxième chose que je voudrais dire, et je rejoins peut-être à ma façon ce qui a été dit, c'est que ne mésestimons pas, c'est toujours la même histoire, c'est au pied du mur, devant le gouffre, on peut prendre les images que l'on veut, que brusquement les prises de conscience se font. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour les avant-gardes, des discours, des propos, des analyses d'ailleurs fondées avaient été faites, elles n'impactaient pas en profondeur les sociétés. Et moi je suis d'avis d'être optimiste. Il y a les jeunes qu'on a évoqués, mais c'est tout simplement la prise de conscience d'une question de survie. J'ajoute évidemment d'un mot il faut pas se tromper, hein, c'est pas le problème du sort de Madame Hidalgo, de Monsieur Macron ou même de Monsieur Trump. Ce qui est en jeu là, c'est une modification en profondeur
de nos enfants.
Guillaume Jubin a la parole. Je crois qu'il y a deux niveaux. Au niveau du G20, d'ailleurs, on a dit que c'était le G19 plus 1 et que c'était finalement Donald Trump contre le reste du monde. Le multilatéralisme, ça ne fonctionne que si tout le monde est d'accord pour le faire fonctionner. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc il n'y a plus de multilatéralisme. Le multilatéralisme est mort. Donc c'est pas à ce niveau-là, évidemment, que vont se résoudre ces grands sujets-là dans la période qu'on a devant nous. Et moi, je suis assez d'accord. Je pense que c'est les sociétés qui feront bouger ces sujets comme le climat. Et d'ailleurs, il suffit de voir ce qui est les engagements, alors que soit qui sont pris au niveau de la jeunesse, vous en avez parlé, mais même de ceux qui agissent. Les entreprises, le World Economic Forum à Davos, il y a des engagements qui sont pris par les entreprises qui vont mais beaucoup plus loin que ce qui a été fait.
Jamais on les aurait imaginés il y a 5 ou 10 ans.
Et si vous prenez ce qui a été fait au World Economic Forum cette année par rapport à ce qui est les discussions qu'il pouvait y avoir dans cet endroit-là au cours des dernières années.
Parlez de tous ceux qui sont venus dans des jets privés.
Alors peut-être qu'il y a des comportements après individuels qui sont pas en adéquation avec les engagements qui sont pris, comme vous le disiez sur le G20. Mais je pense que c'est plus dans ce cadre-là qu'on fera avancer les choses que dans des grandes déclarations d'intention où faut mettre autour de la table des pays dont on voit qu'ils sont, comme vous le disiez, divisés et qui arriveront jamais à se mettre d'accord. Donc c'est les sociétés qui doivent agir.
Autour de la table, je prends votre exemple concret, qu'est-ce que vous êtes prêt ou qu'est-ce que vous avez fait pour... Vous avez modifié dans vos habitudes pour justement l'avenir de la planète. Caroline Mécari.
Déjà, pas de voiture. Mais enfin, bon, évidemment, je suis parisienne, donc c'est particulier parce qu'à Paris, on a vraiment un réseau très important de transport en commun, ce qui veut dire qu'il faut l'aider. Non, mais il n'y a pas que ça. Ça va de la consommation de l'eau, le tri, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'il y aura à faire. Enfin, en tout cas, si je dois supprimer des choses, je les supprimerai.
En fait, parce que c'est une question de survie. En fait, c'est un éveil de tout le temps. À chaque moment de la journée, j'y pense. Ne pas laisser la porte du frigo. Des petits gestes tout simples. Ne pas laisser les lumières, les micro-ondes, les lumières allumées.
Ça, moi, je le fais depuis tout petit parce que ma mère. Elle...
Non, mais je veux dire qu'on n'y pensait pas. Ne pas gaspiller, ne pas utiliser de voiture.
Vous faites quoi? Vous marchez beaucoup?
Oui, je marche beaucoup, mais ça ne regarde que moi. J'en suis fier. J'ai abandonné depuis peu. Alors, on me dit pourquoi j'utilisais ça avant. D'accord, on peut dire tout ce qu'on veut. J'ai abandonné les bouteilles d'eau plastique. J'en ai marre. J'ai pris conscience. C'est dégueulasse, l'acclimatation. Enfin, les ordures, les montagnes d'ordures au fond des océans, avec du plastique.
Vous couper la clim, vous allez voir.
Mais je l'accepterai.
La clim, c'est un vrai problème, parce que vous allez voir qu'avec le réchauffement, et puis si vraiment on se retrouve dans les grandes villes. Non, mais c'est une réalité.
Moi, je suis assez humble sur le sujet. J'ai pas ni de leçons à donner, ni à recevoir. Je pense que je fais pas assez, sûrement.
Mais moi, je donne pas de leçons.
Ce qui est important, si je peux me permettre, c'est qu'il y a un tel travail à fournir, tellement de choses, l'architecture, il y a tout à repenser.
Mais ça peut basculer brusquement, aller tranquillement.
À petits pas, là, c'est plus le moment, quoi. Bon, ils prennent des postures au G20.
Regardez qui est à côté de moi, c'est Boris Allier, et il attend pour le rappel de l'info à 20h21.
À Nantes, une marche en hommage à Steve aujourd'hui, ce jeune homme de 24 ans porté disparu depuis la fête de la musique. Depuis l'intervention controversée de la police pour disperser un rassemblement de fêtards, 14 personnes étaient tombées dans la Loire. Les recherches pour retrouver Steve Canisso n'ont toujours rien donné. Près d'un millier de personnes se sont réunies cet après-midi pour réclamer justice et vérité. Encore de fortes chaleurs aujourd'hui, 35 degrés en région parisienne, 41 dans le sud. Météo France prévoit un rafraîchissement à partir de demain dans le nord-ouest. Sachez par ailleurs que la circulation différenciée est reconduite à Paris et dans les 33 communes de l'agglomération de Strasbourg. La Chine et les États-Unis reprennent le dialogue en marge du G20. Donald Trump et Xi Jinping veulent relancer les négociations commerciales. Et en guise de bonne foi, le président américain confirme qu'il n'imposera pas de nouvelles taxes sur les produits chinois pour le moment. Et puis c'est Charles Leclerc qui partira en pole position demain au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Le Monégasque décroche ainsi sa deuxième deuxième pole position. Lewis Hamilton, lui, est pénalisé de 3 places et partira donc 5e.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous. La suite des informés avec Marie-Josée Allier, Dominique de Montvallon, Caroline Mécari et Guillaume Jubin. Les marches des fiertés, plus que jamais nécessaires en 2019, avec un point d'interrogation. Elles ont eu lieu aujourd'hui à Lisbonne, à Mexico, à Skopje, à Manille et à Paris, où le thème était la PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée. De nouveaux droits qui coïncident peut-être avec une hausse des agressions. En tout cas, on écoute Frédéric Potier, c'est le délégué interministériel chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il était l'invité de France Info.
Bien sûr, à mesure qu'il y a une plus grande visibilité, à mesure qu'on parle de ces sujets-là, ça crée aussi des phénomènes de réaction, des phénomènes de rejet. Et donc, on voit une relation très nette entre le nombre d'agressions, le nombre de messages haineux aussi sur Internet et l'avancée de ces droits. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas reculer non plus. Il faut combattre ça avec énergie et détermination.
Alors, est-ce que l'homophobie augmente en fonction que les droits des LGBT progressent ou est-ce que c'est la parole qui se libère ? Dominique de Montvallon.
Moi, j'avais toujours les bonnes questions en premier.
Vous n'avez pas la bonne réponse ? Moi,
je suis sûr que vous avez la bonne réponse. Je voulais vous demander, mais pardon, libre parole. Je me demandais si vous choisissez délibérément, à mon avis, oui, évidemment, parce que vous avez le sens de l'humour et le second degré de poser des questions provocatrices à ce point-là. Attendez, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a les marches des fiertés. Il y a quelques années, je devrais demander ça. Témoignage, non pas à l'appui de mes propos, mais témoignage de Caroline Mécari. Mais il y a quelques années, c'était imposant, mais relativement limité. Depuis, ça n'a cessé de prendre de l'ampleur. Et partout en Europe, et d'abord à Paris et en France, c'est aujourd'hui un mouvement irrésistible et dont la puissance impressionne. La marche des fiertés. Bah oui, je parle de la marche des fiertés. Mmh. Alors à côté de ça, que ça provoque des réactions qui doivent être combattues, qui sont combattues, des réactions homophobes, qui doivent être combattues, qui sont combattues et qui sont à la mesure de, je l'imagine, je ne fréquente pas exactement ce milieu-là, ce monde-là, mais qui sont à la mesure de l'isolement que ressentent certains dans leurs convictions, leurs a priori, etc. Oui, peut-être, mais bon, voilà, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est la direction globale. Et puis, effectivement, il faut que tout le monde rentre dans le cadre républicain et s'y tienne.
Caroline Mécari.
Alors, écoutez, d'abord, la question, les marches des fiertés, c'est vraiment ce qui a permis d'obtenir une égalité des droits. Parce qu'en fait, du point de vue des lesbiennes et des gays, ben, il a fallu quand même revendiquer et combattre pour obtenir le PACS.
Ça n'allait pas de soi, c'est clair.
Il a vraiment fallu combattre en permanence. D'abord, la dépénalisation, le PACS, ensuite l'ouverture du mariage. Et puis aujourd'hui, la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. On rappellera qu'elle existe déjà pour les couples hétérosexuels et que la question qui se pose, donc c'est bien de l'ouvrir à toutes les femmes. Alors que ça génère éventuellement des réactions qui sont aujourd'hui dénoncées de manière beaucoup plus ample, certainement, mais comme vous le rappelez Dominique de Montvallon, les gens doivent rester dans un cadre absolument républicain, on ne peut pas tolérer des
agressions.
Mais
vous pensez quoi ? Que quand il y a eu le mariage pour tous, il y avait eu des actes homophobes, et puis la parole s'était libérée.
Non, moi je pense que les actes homophobes c'est quelque chose qui, enfin, LGBT-phobe, hein, ça concerne aussi les femmes, etc., c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais comme on était dans une société où les lesbiennes et les gays étaient plutôt,
en retrait,
on leur demandait au fond que ça reste dans le privé, ils n'osaient pas forcément le dénoncer. Aujourd'hui, depuis qu'il y a une légitimité, en fait, d'une certaine manière, une rentrée dans l'universalité de la loi des lesbiennes et des gays, des trans et des bi, enfin, je ne vais pas énoncer tous les acronymes qui suivent, mais enfin, ils vont avec, eh bien, ces femmes et ces hommes qui sont agressés à cause de ce qu'ils sont, non pas pour ce qu'ils ont fait, n'hésite plus aujourd'hui à saisir les forces de l'ordre, à déposer des plaintes, à se faire accompagner par des associations.
Donc la parole s'est libérée.
La parole s'est libérée, peut-être dans...
Elle existait déjà avant, était masquée.
Voilà, c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, on ne tolère plus d'être agressé simplement parce qu'on serait une lesbienne ou un gay. Et c'est tout à fait légitime de pouvoir dénoncer ces attitudes-là.
Guillaume Jubin.
Moi, je trouve que la marche des fiertés, c'est le seul exemple de combat de société pour des droits qui s'est fait autour d'un mouvement qui est sympathique, festif et qui renvoie une image, j'allais dire, joyeuse, parce que c'est des images qui sont envoyées. Et ça, c'est très rare. On est habitué à avoir des combats, enfin, on l'a vu ces derniers mois en France, d'ailleurs, sur d'autres sujets, en tout cas, de façon violente ou avec des prises à partie très fortes. Donc, je pense qu'on a assisté à un mouvement qui est politique, mais avec ce côté festif vraiment sympathique. Et je pense que ça a plutôt joué dans la, pour donner une image positive, d'ailleurs, de la cause.
On reste sur ce thème et on y revient après les infos. Ne bougez pas, à tout de suite.
Alice voyage avec Ulysse. Vous savez, le badge de télépéage qui permet à Alice de passer en souplesse tous les péages de France et de Navarre. Et l'expression est on ne peut plus juste, car la Navarre est une région de l'Espagne et que désormais, en Espagne comme au Portugal, le badge d'Alice fonctionne aussi grâce à Ulysse Europe. Cocorico donc ! Et même Kirikiki, puisque c'est ainsi que les coqs s'expriment au-delà des Pyrénées.
Ulysse, le télépéage par Vinci Autoroute. Abonnez-vous sur ulysse.com ou en boutique Ulysse.
C'est malin, c'est Ulysse.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2. Ouvrez l'info.
C'est une information importante que l'on recherche, la météo. Eh bien, c'est maintenant avec vous, Jean-Michel Golinski.
Baisse sensible des températures demain du sud-ouest au Poitou-Charente et au nord de la Loire avec un maximum de 23 degrés près de la Manche. Il fera 25 à Lille et Rennes, 26 à La Rochelle, 29 à Paris, 30 à Reims et Tours, 31 à 34 près de la Garonne. Dans un même temps, sur ces régions, le ciel va se charger, mais les ondées vont rester très ponctuelles. En revanche, sur les régions de la moitié est, l'ambiance va rester au moins aussi chaude qu'aujourd'hui, voire plus sur l'Alsace avec un maximum de 39. Il fera également 39 degrés en moyenne vallée du Rhône, vous aurez 36 à 37 de la Lorraine à la Franche-Comté et à l'est du Rhône, et 34 à 36 dans le golfe du Lion, avec un fort potentiel orageux en seconde partie de journée sur l'Auvergne et les Alpes. Notez que lundi, les températures plus conformes à un début juillet vont gagner l'ensemble des régions avec des couleurs sur la carte de vigilance qui progressivement iront décrescendo.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Merci d'écouter France Info, il est 20h30, l'info Léo Téchère.
La canicule évidemment toujours à la une de l'actualité, 75 départements maintenus en vigilance orange, plus de vigilance rouge donc, mais les températures restent dangereuses pour les organismes, surtout en cas d'activité physique. Lauriane Avare, 2 sportifs sont morts aujourd'hui dans le sud de la France.
Dans le Vaucluse, c'est un cyclotouriste qui évoluait dans la chaîne de montagnes Les Dentelles de Montmirail. Il a d'abord fait un malaise à cause de la canicule, transporté à l'hôpital d'Avignon avant de décéder sur place. La préfecture du Vaucluse rappelle d'ailleurs que toutes les manifestations sportives restent interdites, mais ce n'était pas le cas en Ariège pour la course cycliste l'Ariégeoise. Là-bas, c'est un cycliste de 53 ans qui est mort aujourd'hui. Même scénario, il a fait un malaise sur son vélo avant de chuter au sol. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce sportif. Des témoins sont déjà entendus. Et il faut savoir que si cette course cycliste a été autorisée ce matin, elle a été en revanche interrompue un peu avant midi, car il y avait déjà eu plusieurs malaises à cause de la chaleur.
Une précision de Lauriane Avare pour France Info. La canicule qui devrait se rafraîchir demain à l'ouest. La Charente, la Dordogne, la Loire-Atlantique et la Vendée ne sont plus en vigilance orange ce soir. Il faudra tout de même attendre jusqu'à mardi pour respirer selon Météo France. Des centaines de milliers de personnes réunies aujourd'hui à Paris. La marche des fiertés homosexuelles qui se termine en ce moment avec un concert géant sur la place de la République. Le mot d'ordre, c'était la PMA pour toutes. Le projet de loi sera examiné à l'automne au Parlement. Quelques gilets jaunes également dans le cortège arc-en-ciel. Quelques centaines de manifestants à Paris. Près de 6000 au total en France selon le ministère de l'Intérieur. 4 femmes enceintes portent plainte contre la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre. Action symbolique pour dénoncer l'abandon des pouvoirs publics électrique dans cette zone rurale. Action qui intervient également quant à 400 km de là. En Ille-et-Vilaine, la ville de Dinan apprend elle aussi que sa maternité ne pratiquera plus d'accouchement à partir du 5 juillet. Plus assez d'anesthésistes dans cet établissement. Le sauvetage en mer criminalisé par le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Il demande une peine de prison ferme pour la capitaine du Sea-Watch, Carola Rackete, arrêtée la nuit dernière pour avoir accosté de force avec 40 migrants à bord dans le port de Lampedusa. La France n'a toujours pas réagi à cette arrestation. Et puis malgré l'élimination des Bleus à la Coupe du Monde, Corinne Diacre reste la femme de la situation, selon le président de la Fédé, Noël Le Graët, la coach confirmée à son poste malgré donc l'élimination hier soir contre les États-Unis 2-1. À l'instant, c'est la Suède qui se qualifie, la dernière qualifiée pour les demi-finales en battant l'Allemagne 2-1. Les Suédoises qui affronteront les Pays-Bas qui se sont qualifiés tout à l'heure 2-0 contre l'Italie. 20h33 sur France Info, la suite des informés.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être de retour avec nous dans Les Informés jusqu'à 21h. Marie-Josée Allier, journaliste, chanteuse, écrivaine. Dominique de Montvallon, journaliste, éditorialiste. Caroline Mécari, avocate, spécialiste en droit de la famille et engagée pour la défense des droits des homosexuels. Et Guillaume Jubin, associé chez Women, agence en conseil en communication, pardon, et prof à Sciences Po. Notre thème avant les infos, c'était la marche des fiertés. Et il a été question des agressions homophobes notamment, mais aussi des avancées des droits. Cette PMA, la procréation médicalement assistée, est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va poser problème comme le mariage pour tous en 2013, Marie-Josée Allier ?
Je pense pas. Je pense que la PMA, c'est rentré un petit peu dans le corpus social. C'est pas là-dessus que.
Ah, vous pensez vraiment ?
Si, je pense qu'il y a pas de fracture énorme de la société. Le plus gros a été fait parce que le mariage pour tous, c'était vraiment ça attaquait.
C'est une question qui traverse toute la société, question du mariage.
La question de la PMA, c'est une question qui touche pas que l'homosexualité, qui touche aussi les couples hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc c'est une question qui est beaucoup plus générique et il n'y a pas de raison pour qu'on n'étende pas la PMA aux femmes homosexuelles. Là où ça va poser problème, c'est lorsque les hommes, parce qu'il s'agit de fonder famille, de faire famille. Donc jusqu'où peut-on aller ? Enfin, moi je pense que jusqu'où ira le gouvernement. Je pense que la PMA.
Vous êtes déjà dans la GPA.
Je suis déjà dans la GPA parce que.
Mais ça, c'est forcément. Ce
on a le projet. En fait, on a le projet. Hein. Il faut quand même savoir que le projet, il a fuité un peu dans la presse. Ouais. Il ne concerne
que la PMA.
Et le président Macron, d'ailleurs, s'est prononcé de façon tout à fait défavorable à la GPA. Il a dit tant que je serai élu, il n'y aura pas de GPA. Donc, on est vraiment là uniquement sur la PMA. La GPA peut-être est quelque chose qui viendra plus tard, mais je rappelle que la GPA, elle est interdite aux couples hétérosexuels. Elle est interdite aux couples hétérosexuels, hein. Donc, alors que sur la question de la PMA, elle est autorisée.
On est bien dans l'avancée des droits.
Oui, on est sur une question d'égalité, une égalité des droits à partir du moment où on rappelle quand même, c'est important, les techniques médicales de procréation ne soignent pas l'infertilité. Hein, ça permet de pallier une infertilité, mais ça ne la soigne pas.
Oui, alors je pense qu'on fait une avancée pas à pas. Pour ne pas créer de séisme dans la société, mais que tôt ou tard se posera la question de la GPA.
Ce n'est pas d'actualité, mais
à la question est-ce que la PMA
va
provoquer une
GPA.
Fracture Dominique. Énorme dans la société actuelle, je dis que non.
Dominique de Montvallon, je ne vous pose pas de questions provoques.
Je plaisantais. Vous m'avez pardonné, je l'ai senti tout à l'heure. Écoutez, je pense que c'est pas peut-être complètement opportun que l'on dérive, mais je ne.
Nous ici.
Qu'on dérive non, mais que l'on dérive en général en France, qu'on fasse passer, j'appelle dérive, le faire passer la discussion sur la généralisation de la PMA, qui sera vécue par beaucoup comme une conquête. Et qui devrait effectivement, sous cet angle-là, qui est important, hein. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé cette situation, devrait passer sans trop de problèmes, passera évidemment, mais sans trop de problèmes. Et il ne faudrait pas commencer à mettre sur le tapis tout de suite la question de la GPA, qui est une question qui divise beaucoup plus, qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, dont certains ont parfaitement le droit de penser que, inévitablement, elle viendra. D'ailleurs, les opposants disent, ne nous racontez pas d'histoire, elle viendra effectivement. Mais bon, aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, hein. La PMA.
On reste sur la PMA.
Alors, restons sur la, enfin, je dis ça, pas à propos de notre débat, mais à propos du débat français aujourd'hui.
C'est ce que fait le gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement fait, comment dire, montre d'une mesure ou d'une disposition qui est technique, une avancée, un droit, mais qui est technique et qui n'est pas un débat de société. Et d'ailleurs, il se garde bien de rouvrir un débat de société, comme d'ailleurs avait voulu le faire François Hollande avec le mariage pour tous. En l'occurrence, là, on voit bien que c'est totalement différent et qu'on réduit le spectre.
Et c'est volontaire.
On fait en sorte que ce sujet soit surtout un débat technique qui apporte un droit, qui résout des problèmes pour certaines personnes.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est quoi la situation aujourd'hui? C'est que les couples de lesbiennes, elles vont à l'étranger dans les 14 pays où c'est déjà ouvert aux couples de femmes. Et donc, au fond, et ensuite, elles reviennent en France, l'enfant naît, on met en place une adoption pour celle qui n'est pas la mère, pour avoir une protection juridique. Et donc, au fond, la situation française est une situation qui, finalement, est très hypocrite. Et donc, il s'agit de rattraper cette situation et de la rendre, j'allais dire, plus transparente pour tout le monde. Voilà, tout simplement.
Caroline Mécari, je voulais vous demander de nous raconter Stonewall. On en parle beaucoup, ce sont les 50 ans de cet événement. C'est à la une de quelques quotidiens, Libération, ce matin. On parle des avancées et des droits. 50 ans, il y a 50 ans, c'était très important ce qui s'est passé à New York.
Exactement, c'est-à-dire que dans la nuit du 28 au 29 juin 1969, des lesbiennes, des gays, des trans, racisés, etc., en ont eu assez de subir, en fait, les violences policières qui s'exerçaient absolument régulièrement à leur égard, simplement parce qu'ils étaient gays, etc., et que donc ça a été le début d'une révolte qui a été brutale d'une certaine manière, mais qui a permis aux homosexuels américains de se structurer en l'espace de 6 mois. Des associations se sont créées et ça a été le retournement du stigmate, en fait. C'est-à-dire, au fond, la société américaine regardait les lesbiennes et les gays, les trans, comme des gens, des êtres infâmes, des êtres marqués d'opprobre, et eux ont dit, nous assumons ce que nous sommes et arrêtez de nous traiter comme des moins que rien.
Certains réécrivaient un peu l'histoire en disant c'est le début du mouvement des droits, les droits pour les homosexuels. Alors qu'à l'époque, on voulait détruire la société hétéro-patriarcale.
Oui, c'est possible, mais vous savez, il y a des évolutions. Non, mais il y a des évolutions, surtout dans les aspirations des individus au regard d'une société à un moment donné. Si vous aviez parlé de mariage dans les années 80 aux lesbiennes et aux gays, vous auriez dit mais non, on n'en veut pas forcément, etc. Ouais. Donc il y a des aspirations qui évoluent aussi parce que les sociétés évoluent.
Absolument.
Eh bien, vous vous êtes arrêtés tous en même temps, c'est très bien, vous avez compris qu'à 20h40, Boris Allier est arrivé et qu'il va nous faire un petit rappel de l'info.
Ils ont bravé la chaleur dans les rues. Plusieurs milliers de gilets jaunes ont défilé en France aujourd'hui, entre 6 et 11 000 selon les sources. La plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Certains sont rassemblés ce week-end à Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire pour évoquer les suites à donner au mouvement. Les pompiers restent mobilisés dans le Gard. Ils tentent de maîtriser 2 nouveaux foyers d'incendie. En 24 heures, les flammes ont fait 20 blessés dans le département. Elles ont brûlé 11 habitations et détruit plus de 600 hectares. Des incendies favorisés par les forces chaleur. Le président tunisien va mieux, il est hors de danger selon son fils qui précise que Béji Caïd Essebsi pourrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours. À 92 ans, le chef d'État a fait un grave malaise jeudi. Les agriculteurs européens en colère, ils dénoncent l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Mercosur, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Un accord qu'ils jugent déséquilibré et qui ouvre la voie selon eux à une concurrence déloyale, les normes sanitaires n'étant pas les mêmes. Et puis la Suède rejoint les Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Les Suédoises se sont imposées 2-1 face à l'Allemagne. L'autre affiche des demi, c'est l'Angleterre face aux États-Unis.
France Info. France Info, les informés. Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous. Vous écoutez et vous regardez Les Informés. Marie-Josée Allier, Dominique de Montvalon, Caroline Mécari et Guillaume Jubin. L'affaire Lambert maintenant, encore et toujours avec un rebondissement, un énième rebondissement hier soir, la décision de la Cour de cassation qui ouvre à nouveau la voie à un arrêt des soins de Vincent Lambert. Cet homme est plongé dans un état végétatif après un accident. Sa famille se déchire sur son sort depuis 10 ans. Écoutez justement l'avocat des parents de Vincent Lambert sur France Info.
Si le gouvernement prétendait ne pas faire respecter ces mesures provisoires, nous engagerions évidemment immédiatement des poursuites pénales contre les ministres concernés devant les juridictions compétentes. Le gouvernement français sera pris à partie lundi, 1er juillet, par Viviane Lambert, que nous accompagnerons devant le Conseil des droits de l'homme, où elle est invitée à s'exprimer pour dénoncer le parjure du gouvernement français vis-à-vis de ses engagements internationaux et vis-à-vis de la vie d'un homme.
Dominique de Montvalon, ça tombe sur vous. Pardon d'être encore avec une question provoque, mais...
Non, c'est pas une question provoque, c'est une question de bon sens. Je ne vais pas les qualifier toutes vos questions, quand même.
Mais qui a compris, là, ce qui se passe?
C'est une question, forte, et c'est une question attendue, et c'était une question évidemment embarrassante. Je vais vous dire d'un mot, malaise total devant ce qu'on vient d'entendre. Il ne suffit pas d'être sincère pour ne pas être indécent. Ah, moi, je pense à ce Vincent Lambert, je pense à sa femme, je pense à leur enfant, parce que je ne sais plus si c'est un petit garçon ou une petite fille, enfin peu importe, qui est né 3 mois après son accident, et je pense à une partie de sa famille qui avait pour lui et qui a pour lui de l'amour, des liens forts, et qui n'a jamais cherché autre chose que la meilleure solution, comme n'importe qui, toute proportion gardée, pourrait le faire dans sa propre famille, etc. La meilleure façon, la meilleure chose possible pour lui dans l'état qui est le sien, et on sait ce qu'il en est.
Donc malaise aujourd'hui.
Et donc, non, j'ai plus que malaise. Moi, je vous le dis. Très gros malaise, en tout cas. Et c'est presque indécent. Cet avocat-là, nous l'avons encore en tête, quand il criait « remontada, remontada », etc.
Après la décision de la cour d'appel.
Après la décision initiale de la cour d'appel. Attendez, c'est pas possible, c'est pas possible. Beaucoup de Français sont très mal à l'aise.
Marie-Josée Allier. Tout à fait, le malaise est total. Moi, chaque fois que cette histoire arrive dans l'actualité et tout, je me sens très très mal, parce que je pense qu'on fait effectivement peser sur la famille, c'est-à-dire dans l'affect total, des décisions qu'ils doivent revenir, je le dis parce que je le pense, j'ai essayé de me mettre dans le cas de figure où je suis la mère ou je suis l'épouse. Il faut que ce soit la loi qui parle et puis la science. On peut pas rajouter au fardeau de la tristesse, du chagrin. C'est l'affect dans l'affect.
Tout est personnel. C'est la loi, elle est respectée.
Oui. Et qu'aujourd'hui, la loi prévoit, Leonetti et Claes, les deux auteurs d'une loi qui a été à l'origine, ne l'oublions pas, votée à l'unanimité. Il demande à chacun de faire un papier.
Quand je dis la loi, c'est justement faire ce testament de fin de vie. Ça, c'est la chose la plus importante. Directives anticipées. Il faut vraiment qu'on fasse, et qu'on le fasse tous. Enfin, je veux dire qu'il y a un âge où on a du mal avec la mort, c'est un peu tabou. Mais il faut le faire quand on est jeune. Ouais. On dit ce qu'on veut. Acharnement thérapeutique. Et puis alors, la science qui intervient pour dire, où commence l'acharnement thérapeutique? Il faut débarrasser.
Il faut désigner quelqu'un.
Il faut débarrasser les familles qui souffrent de cette responsabilité énorme de trancher sur la... Puisque je voudrais dire encore un dernier mot, après j'aime pas beaucoup ce sujet, me met mal à l'aise. Je dis, c'est vrai que les traditionnalistes sont très contre, l'accompagnement de fin de vie, l'arrêt de la vie, parce que tant que le cœur bat et qu'on peut le faire battre, il faut le faire battre. Mais bon, avec beaucoup d'insolence, je dirais simplement que même le Christ, il a souffert quelques jours, pas 12 ans. pas 12 ans.
Non, mais les soins palliatifs ne sont récusés par personne et c'est pas un pardon, mais je comprends pas ce que vous dites là. Les traditionnels, enfin bon, il faudrait rentrer dans les questions de vocabulaire. Les soins palliatifs, c'est une noblesse. C'est une conquête valable pour tout le monde. Mais oui, là, je ne sais pas si on doit appeler traditionnaliste.
Mais quand je vois que l'évêque de Reims, qui est quand même, qui a une sommité, qui a pris la parole pour dire, ben non, il faut laisser le, faites-le vivre.
Pardon, Marie-Josée, Caroline Mécaré, vous êtes avocate, vous entendez cet avocat qu'on a entendu il y a quelques instants, des parents de Vincent Lambert. Vous vous dites quoi? Loi, on ne peut pas la nier, on ne peut pas la contourner, ou il y a toujours des moyens, comme il le fait?
Je dis que c'est un avocat militant. Oui, qui est profondément militant, c'est-à-dire qu'en effet, il soutient la cause des parents de Vincent Lambert, qui eux-mêmes sont soutenus par la Fondation Le Jeune. Qui sont financés par la Fondation Le Jeune. La Fondation Le Jeune est la fondation qui a, Jérôme Le Jeune est quelqu'un qui a découvert la trisomie 21 et qui s'est toujours engagé. C'est un pro-vie, en fait. Il est contre l'avortement et donc bien connu pour ça. Bon, ça c'est une chose qu'on entend. Pour moi, très sincèrement, y compris en tant que professionnel, moi je trouve ça tout à fait obscène. Ce que je peux dire, c'est que je crois que la Cour de cassation, elle a remis l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'elle a bien dit clairement que l'arrêt de la Cour d'appel ne pouvait pas être pris. Les magistrats de la Cour d'appel ont outrepassé leur pouvoir. Ça, c'est sur le plan du droit. Donc, en effet, on peut arrêter les traitements. Et pourquoi est-ce qu'on peut arrêter les traitements? Non pas parce que ce serait la lubie de l'épouse de Vincent Lambert ou la lubie de je ne sais qui, mais parce qu'il y a des collèges de médecins qui se sont penchés sur la situation, qui le suivent depuis maintenant plus de 10 ans ou 11 ans.
Mais là, quand on menace justement d'attaquer les médecins pour meurtre,
C'est n'importe quoi. Soyons très clairs, c'est cette manière de faire, volonté d'intimider tous ceux qui ne sont pas. C'est de l'intimidation ce n'est pas acceptable, mais ça ne vaut rien.
Moi, j'ai envie de dire stop. Je crois que les Français en peuvent plus de cette histoire. C'est une histoire qui prend en otage le débat sur la fin de vie en France.
Absolument.
Alors, c'est le débat d'une famille qui se déchire sur le cas d'une personne, alors qu'on sait très bien que le débat sur la fin de vie, entre guillemets, mérite mieux, et que ce qui se fait dans la loi Leonetti, ce qui se fait aussi dans les établissements hospitaliers, dans la pratique, tout le monde le sait.
Dans les soins palliatifs.
Voilà, tous les Français ont eu ce genre de situation à gérer dans leur famille ou autour d'eux. Ils savent qu'aujourd'hui, ces sujets se gèrent, se traitent avec de l'humanité, avec
des gens responsables.
Par des gens qui sont responsables, par des médecins qui savent faire leur travail. Alors on peut toujours dire qu'il y aura des cas qui seront pas parfaits. Mais on peut pas avoir un débat qui, en France, est, j'ai envie de dire, pollué par cette affaire qui, depuis 10 ans, va des échéances judiciaires en échange judiciaire avec une hystérie collective auquel plus personne ne comprend rien.
Avec la justice.
Non.
C'est aussi une surmédiatisation d'un cas personnel qui ne ramène plus rien d'autre que un débat complètement
hystérique.
Moi, je dirais qu'il y a eu un problème, en effet, avec la Cour d'appel de Paris. Ça, c'est très clair. Mais sinon, le Conseil d'État s'était prononcé, la Cour européenne des droits de l'homme s'était prononcée. Donc, il y a eu quelque chose qui était orienté, on va dire, à la Cour d'appel de Paris et auquel la Cour de cassation vient de mettre fin avec raison. Il faut laisser partir Vincent Lambert en paix, quoi.
Absolument.
En paix, vraiment.
Ce sera le mot de la fin de cette partie. Dans un instant, les coups de cœur des informés, vous les attendez tous. C'est comme ça le samedi soir, à 20h et presque 50 minutes, le rappel de l'info, Boris Allier.
Les températures devraient baisser à partir de demain. Météo France évoque un rafraîchissement dans le nord-ouest après une semaine de canicule. 75 départements restent tout de même en vigilance orange. Elle est en revanche levée en Charente, en Dordogne, en Loire-Atlantique et en Vendée. Une plainte pour dénoncer la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre. 4 femmes enceintes déposent plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Elles doivent désormais faire 1 heure de route pour aller accoucher. Ces 4 femmes se sont donc rendues à la gendarmerie avec une 50aine de militants anti-fermeture. Le ministre allemand des Affaires étrangères réclame une clarification rapide après l'arrestation de la capitaine du Sea-Watch, ce navire d'une ONG allemande qui a accosté de force dans le port italien de Lampedusa. À son bord, 40 migrants. Le ministre italien de l'Intérieur refusait de les accueillir et il dénonce un acte de guerre. Et puis Charles Leclerc décroche la 2e pole position de sa carrière. Le pilote monégasque partira en tête demain au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Lewis Hamilton, lui, a été pénalisé de 3 places et partira donc en 5e position.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
La suite des informés jusqu'à 21h. Alors les informés en général, c'est la rédaction de France Info qui choisit les thèmes, qui les donne aux informés pour qu'ils viennent avec leurs idées et leurs informations. Les coups de cœur du samedi soir, eh bien, ce sont les informés qui nous donnent leurs propres thèmes. Eh ben, tiens, vous riez, Dominique Devon. Allez-y, les bleus. Vous voulez remuer le couteau dans la plaie?
Non, pas du les tout. Je veux faire un grand coup de chapeau, un grand coup de cœur à l'équipe des bleus.
De France de foot.
Oui, c'est la Coupe du Monde féminine.
C'est bien.
Elles ont été. Ça va pas de soi. Elles se sont révélées extrêmement sympathiques. Elles ont bien joué au football, inégalement bien sûr, mais bien joué au football. Elles ont joué collectif. Hein. C'est pas toujours fréquent ou systématique chez les hommes.
Pas de nom.
Et puis j'ajouterais que elles ont eu à la fin des fins la malchance. C'était probablement un tirage au sort. Je sais pas très bien comment c'est passé de tomber en huitième de finale contre les championnes du monde en titre qui vont.
Ça méritait d'être une finale, France-États-Unis.
Ah ben, je vous fais pas dire. Et j'ajoute une chose, c'est que j'ai remarqué dans des commentaires, ça m'intéresse beaucoup au football, et donc aussi au football féminin, que j'ai trouvé très emballant. J'ai remarqué qu'un certain nombre, pas ici, pas Radio France, mais un certain nombre de commentateurs que je ne citerai pas, des experts du football, ces messieurs, hein, des experts. Il y a des gens très bien là-dedans, une majorité. Mais on fait preuve d'un machisme dans leurs commentaires qui m'a poussé encore plus à dire chapeau les bleus, EUES.
Ce qui a changé, je trouve, c'est qu'on décrypte maintenant le jeu, les tactiques, et enfin, on analyse finalement le football féminin comme il doit l'être, c'est-à-dire comme
qui l'aurait imaginé il y a 5 ou 10 ans en France.
C'est ce qui a changé. Surtout, il y a 11 millions de téléspectateurs.
Exactement. Et les émissions de football parlent du football féminin.
C'est génial. Ce sera une date quelque part.
Exactement. Ah oui, absolument.
Marie-Josée Allier. Alors vous, c'est un appel à vigilance et ça n'a rien à voir avec la canicule.
Ah non, on va en Guyane, là. C'est la situation des Hmongs de Guyane. Alors les Hmongs, ils sont arrivés en 77 en Guyane pour fuir le régime communiste du Laos. Donc ce sont des réfugiés politiques. Aujourd'hui, certains d'entre eux ne sont toujours pas naturalisés après 40 années de résidence en Guyane, donc en France. Alors, c'est quoi la raison pour laquelle on leur refuse leur naturalisation? Ben, c'est parce qu'ils ne parlent pas suffisamment bien le français. Or, nous nous trouvons dans un pays, la Guyane, qui est français, mais créolophone. Donc, tout le monde parle parfaitement bien le créole et se comprend. Donc, il y a un moment où l'application mécanique de la loi touche à l'absurdité. D'autant que les Hmongs, alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Guyane, si vous êtes déjà allé à Cacao, ils font vraiment totalement partie de la vie culturelle de la Guyane. C'est-à-dire qu'ils ont donné autant qu'ils ont pris. Et c'est une intégration totalement intelligente parce qu'ils ont donné les paramètres de leur culture, de leur manière de faire du maraîchage, etc. Et les Guyanais ont pris et ils sont Guyanais. Donc, la nouveauté, c'est qu'il y a un sénateur guyanais qui a fait un appel à Castaner, qui a donc écrit au ministre de l'Intérieur, qui l'a écrit pour lui dire qu'il faut naturaliser ces Hmongs-là. Donc, il faut être vigilant parce que ce serait totalement absurde de se retrouver dans une situation où, au moment où il y a tellement de débats autour des migrations, que celle-là ne soit pas validée.
On va passer justement au coup de cœur de Caroline Mécari.
Ce que vous dites, je voudrais juste rebondir, c'est qu'au fond, vous êtes en train de nous dire que les Hmongs sont des Français de fait et que maintenant, il faut qu'ils deviennent des Français déjurés en droit.
Voilà. Tout simplement.
C'est joli.
Caroline Mécari, votre coup de cœur.
Moi, c'est pas un coup de cœur, moi, c'est plutôt un coup de gueule, si vous voulez.
C'est un coup de cœur pour une femme, en tout cas.
Oui, effectivement, on peut le dire comme ça, absolument. C'est vraiment pour la capitaine.
C'est toujours le bon côté des choses.
pour la capitaine du Sea-Watch qui, malgré les obstacles, a décidé d'accoster et de mettre en sécurité les 42 migrants qu'elle avait récupérés avec son équipage, qui étaient des personnes qui étaient en détresse. Et par son geste, elle nous rappelle vraiment d'abord que quand on est en mer, un bateau, il doit sauver les gens. Ça, c'est déjà la première des choses. Il y a maintenant des milliers de morts chaque année en Méditerranée. Et le fait de voir cette femme interpellée, menottée, Carole Racquette, absolument, me paraît absolument invraisemblable. Nous sommes dans une société qui marche sur la tête. Comment se fait-il qu'un continent, enfin en tout cas au moins un espace politique comme l'Europe, 500 millions d'habitants, ne soit pas capable de prendre en charge...
C'est une décision de Salvini pour l'instant.
De prendre en charge. Oui, mais
pour l'instant, il n'y a pas réagi.
Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation du président de la République. Enfin, et il faut, et je ne vais pas vous rappeler les autres bateaux qui ont fait la navette entre les eaux territoriales françaises, etc.
Voilà.
Donc, vraiment, je trouve que ça nous fait honte. Et cette femme nous rend notre honneur et il faut la soutenir et il faut qu'elle soit libérée.
Carola Rackett, capitaine du bateau Sea-Watch à Lampedusa, absolument, qui a donc été arrêté, bateau humanitaire. Le coup de cœur de Guillaume Jubin, vous nous emmenez dans une expo.
Oui, alors moi j'ai voulu être être un peu plus léger et me démarquer. Donc c'est une exposition qui a lieu à Paris au Carreau du Temple qui présente le travail d'artistes qui sont en résidence dans des entreprises ou dans des administrations, notamment dans l'administration pénitentiaire. En résidence, c'est-à-dire que c'est des artistes dont les ateliers sont transportés dans une entreprise pendant une durée donnée et qui font un travail très intéressant parce que ça montre aujourd'hui que les entreprises et les lieux où on travaille aujourd'hui ont beaucoup changé, sont beaucoup plus ouverts sur le monde, sur ce qui se fait à l'extérieur, et il y a un échange entre ce que font les artistes, leur créativité, et de l'autre côté, bah, des gens qui travaillent et qui découvrent aussi le monde sur leur lieu de travail. Tout ça va dans le bon sens et je trouve que c'est une bonne façon en tous les cas d'éclairer une nouvelle vision de l'entreprise et de l'art dans l'entreprise.
De la relation.
Illustration du monde du travail qui change. Merci à nos informés ce soir. Je vous rappelle qu'avec nous, il y avait Marie-Josée Allier, journaliste, chanteuse, écrivaine, Dominique de Bonvallon, journaliste, éditorialiste, Caroline Mécari, avocate spécialisée en droit de la famille, engagée pour la défense des droits des homosexuels, avec votre que sais-je sur la PMA. GPA,
oui.
C'est ça, hein. Vous avez lié les deux, vous avez osé.
Parce qu'il faut être pédagogue et justement ça permet de montrer que ce n'est pas la même chose.
Guillaume Jubin, associé chez Women, agence de conseil en communication, professeur à Sciences Po.